Benoît Guillou, bonjour.
Oui, bonjour.
En recevant Paul Kagamé, le pape François a dit « J'implore le pardon de Dieu pour les péchés et les manquements de l'Église et de ses membres pendant le génocide ». Est-ce que c'est une demande de pardon pour l'institution ou pour des individus?
Alors, concernant le pape François, il admet la responsabilité de certains de ses membres, mais ça ne se situe pas au niveau de l'institution. Si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1990, 7 des 9 évêques en fonction sont Hutus. Donc ça, c'est le contexte avant le génocide. Ça veut dire très concrètement qu'une préférence ethnique est accordée aux Hutus dans la promotion ecclésiastique. Et parmi ces évêques, certains entretiennent une relation de proximité avec le président Habyarimana. Et c'est le cas de l'archevêque de Kigali, que je rappelle, comme il était membre du comité central du MRND, le parti unique, de 1976 à 1989. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que de 1959 à 90, la conférence des évêques n'a pas dénoncé publiquement les violences dont étaient victimes les Tutsis.
Alors on sait que pendant le génocide, de nombreux prêtres et religieux ont succombé, comme dit le pape François, à la haine et à la violence en trahissant leur mission évangélique. Mais qu'en est-il de l'institution elle-même, l'Église catholique?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 94, pendant le génocide, dans la même assemblée de fidèles, vous avez certains qui ont tué, qui vont prendre part au massacre, et d'autres qui sont tués. Donc certains vont prendre part au massacre et le tribunal pénal international pour le Rwanda a inculpé 4 prêtres. En Belgique, 2 religieuses ont été condamnées. Mais en 94, des chrétiens ont aussi été tués. Si la hiérarchie est majoritairement constituée de Hutus, le clergé est majoritairement constitué de Tutsis. Donc des prêtres, des fidèles, des hommes, des femmes ont également été tués. Donc l'Église n'est pas un bloc homogène.
Et qu'en est-il justement de la hiérarchie de l'Église catholique rwandaise pendant le génocide?
Ben voilà, justement, donc le cas de l'archevêque de Kigali fait problème. Donc, comme je l'ai expliqué, il était membre du comité central du MRND de 1976 à 1989, et c'est peu de temps avant la visite de Jean-Paul II au Rwanda en 1990 qu'il va démissionner sur les pressions du Vatican. Maintenant, concrètement, moi, j'ai pas d'éléments pour savoir ce qu'il était ou ce qu'il a fait pendant le génocide.
Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que, grâce à Jean-Paul II, l'Église a commencé à faire le ménage en son sein 4 ans avant le génocide?
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que avant le génocide, donc le pape Jean-Paul II alerte. Et je rappelle que c'est Jean-Paul II qui est le premier chef d'État qui a qualifié les massacres de 94 de génocide.
Et alors finalement, lors de cette rencontre de lundi dernier, est-ce que le pape a demandé pardon pour les individus qui ont péché et qui ont trahi leur mission évangélique, ou est-ce qu'il a demandé pardon pour l'institution, pour toute l'Église catholique?
L'Église catholique, au niveau de sa tradition, situe la responsabilité à un titre personnel, individuel. Donc le pape reconnaît la responsabilité de certains de ses membres. On se situe à ce niveau. Ce qui est intéressant, au Rwanda, donc après le génocide, la situation est extrêmement tendue. En 98, il y a African Right qui adresse une lettre ouverte au pape Jean-Paul II en disant qu'au nom du pardon, on ne peut pas se permettre d'échapper à la justice. Des députés aussi adressent une lettre ouverte au père Blanc leur demandant de quitter le pays. Donc la situation est très dure, mais malgré la gravité des accusations, l'Église essaye de se mobiliser. L'épiscopat, à partir de 98, organise les gachachas chrétiens. C'est-à-dire que c'est un moment où l'Église va essayer de revisiter son passé. Et ce qui est intéressant, de façon parallèle, il y a une démarche qui est engagée au niveau institutionnel et l'Église amorce un aggiornamento. Au moment de la clôture du jubilé en 2001, au Stade Amauro, il y a près de 15 ou 20 000 personnes, les évêques vont faire un acte de repentance. Ils reconnaissent la responsabilité de certains de ses membres.
Paul Kagamé voulait aussi que le Vatican fasse repentance pour le soutien que, selon lui, le Saint-Siège aurait apporté au pouvoir Hutu jusqu'au moment du génocide. Qu'en est-il finalement?
Là, pour l'heure, on reste dans le domaine des généralités. C'est le pape Jean-Paul II, peu de temps après les attentats du 11 septembre, qui va écrire une lettre sur le lien entre le pardon et la justice.
Alors, vous parlez de ce travail sur le pardon. Le pape parle de la nécessité de purifier la mémoire. Ça veut dire quoi?
Oui, le pape Jean-Paul II aussi parlait beaucoup de la purification de la mémoire. C'est une invitation qui est faite aux fidèles de revisiter le passé, d'établir les faits, de reconnaître la gravité et de s'engager à réparer dans la mesure de ses moyens.
Oui, ça ne veut pas dire oublier, hein.
Ah non, c'est totalement un authentique pardon et l'antithèse de l'oubli.
Le 5 juin 1994, dans les dernières semaines du génocide, 3 évêques catholiques rwandais ont été assassinés à Gakurazo par le FPR. Est-ce que cet événement est totalement occulté aujourd'hui au nom de la réconciliation?
La situation est compliquée, Il y a un rapport de force entre l'Église et l'État. Donc en effet, le 5 juin, des militaires du FPR ont commis ce massacre. Donc il y a 15 victimes, dont 3 évêques. Donc aujourd'hui, la situation est compliquée au Rwanda, mais comme dans beaucoup de pays, il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants. Bien souvent, face à la violence extrême, on a des méchants et d'autres méchants à des degrés différents, à des moments différents. Donc on a le génocide de 1994 et il y a aussi ces massacres qui ont été commis par le FPR. avant 94 et après 94 au Rwanda et en RDC. Simplement, ces crimes, on peut pas en parler, c'est le domaine des non-dits. Aujourd'hui, la qualité de victime est réservée pour les Tutsis. Mais là, je voudrais être clair, hein, il ne s'agit pas d'instaurer une symétrie historique entre le crime de génocide et les crimes du SPR, mais c'est une particularité du Rwanda, on est dans un contexte historique qui est caractérisé par le tragique du conflit. Enfin, je reprends cette expression du philosophe Olivier Abel. Quand il parle du tragique du conflit, c'est-à-dire qu'on est en présence de faits irréparables, un enchaînement de crimes de nature différente, et on est, troisièmement, dans l'impossibilité d'exprimer tous les torts.
Benoît Guillou, merci.